Bonjour à toutes et à tous. Le réseau Médici est ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire de l'année consacré au SPOC-QRO qui a été développé dans le cadre du réseau REPER, le réseau de pépinières de revues scientifiques. Ce module de formation interactive va vous être présenté par les trois initiateurs du projet, Françoise Gouzy, chargée d'information scientifique et technique à la direction d'appui à la recherche de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, Armelle Thomas, chargée d'information scientifique et technique à la Maison des sciences de l'homme de Dijon et membre du comité de pilotage sciences ouvertes de l'Université de Bourgogne, et Jean-Luc de Auchandiano, conservateur en chef des bibliothèques de l'Université Lyon 3 et responsable de la plateforme de revue Prairial. Tous les trois sont également membres du groupe Édition ouverte du COSO, copilote du réseau REPER au titre des pépinières Interface de Toulouse, Préau de Dijon et Prairial de Lyon et Saint-Étienne, membre du réseau Médici et représentant des universités partenaires de Mirabel. Je vais donc laisser maintenant la parole à Françoise.
Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. Bonjour à tous. Merci de participer à cet atelier. Nous sommes très heureux de faire ce webinaire Médici avec cette nouvelle formule que vous avez initiée. On anime un atelier d'1 h 30, hein, qui va être hétérogène avec une présentation d'abord du SPOC-QRO que l'on va faire avec Jean-Luc tous les deux. Et puis ensuite, il y aura une partie un peu plus pratique avec des retours d'expérience et quelques démonstrations de l'outil de formation SPOC-QRO qui n'est pas tout à fait terminé, mais dont on pourra déjà voir quelques parties. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Voilà, hop là. Donc, pardon. Et voilà. Ça va pour tout le monde, vous voyez? OK. D'abord, un petit retour en arrière pour essayer de vous faire comprendre, voilà, comment est né ce projet, hein. C'est un projet sur le très très long cours, hein, on peut dire maintenant. Il y a eu un long processus et différentes phases à l'origine de ce projet. D'abord, ce projet de formation est né d'une initiative de l'Université Toulouse Jean Jaurès, qui est apparue. Enfin, ces discussions autour de cette formation sont nées au sein du groupe Revue. Et puis, il a été développé et il est développé, comme l'a dit Cécile, dans le cadre de REPER, hein, donc Réseau de pépinières de revues scientifiques en accès ouvert. Donc, il constitue de fait le premier livrable de REPER et il est financé par un certain nombre de partenaires issus de l'enseignement supérieur et la recherche, dont j'exposerai les différents partenaires un petit peu plus tard. En réalité, donc, on a d'abord ce projet de formation est né d'une observation de terrain et d'un travail de terrain qui a été mené par les différents membres qui constituent l'équipe projet pendant plusieurs années, hein, auprès des revues scientifiques, auprès des porteurs de revues et toutes disciplines confondues. Donc, on peut faire le constat qu'on a un paysage éditorial assez riche, contrasté, avec de très belles publications, mais il est évident qu'il y a encore des choses fragiles, elles sont en situation de fragilité, en particulier en raison du fait de moyens humains et financiers souvent limités dont les revues disposent. Donc, on a considéré que des solutions de mutualisation devaient se mettre en place en s'articulant à la fois avec les infrastructures et les plateformes publiques en matière d'édition. Donc, évidemment difficile de venir en aide à toutes les revues simultanément et sur tous les aspects, compte tenu d'un paysage de l'édition numérique qui est en perpétuel mouvement et des nouveaux enjeux introduits par le développement de la science ouverte. Donc, on a pensé que cette solution de formation en ligne ouverte pouvait être une solution pour parer à ces différents éléments. Donc, on a répondu à un appel à projet en 2019. Hein, donc, le noyau MSH Dijon, Université Toulouse, Université Lyon. Et puis, on a présenté ce projet aux Journées Médici à Nantes en septembre 2019 à d'autres partenaires, hein, en dehors des, un petit peu dans les temps conviviaux qui sont proposés par les Journées Médici. Et puis, un certain nombre de collègues se sont lancés immédiatement dans l'aventure. D'autres nous ont rejoints un peu plus tard. Mais en réalité, c'est parti quasiment de l'automne 2018. Hein, donc, vous voyez que ça commence à faire une longue période. Et on a répondu à l'appel à projet Science ouverte du GIS Réseau des Urfistes 2019. Nous avons été lauréats du projet. Donc, les objectifs. Hop, les objectifs de ce dispositif de formation sont multiples. C'est un dispositif certifiant en ligne qui est gratuit, ouvert. SPOC pour Small Private Online Course. Donc, je détaillerai un petit peu plus loin la différence avec un MOOC. Donc, ce module de formation est proposé à l'échelle internationale et il constitue une solution qui permet de s'adapter à ce contexte et de répondre à plusieurs besoins exprimés par les revues. Il est distribué en licence libre. Hein, nous avons choisi la licence NCSA. C'est by NCSA, pardon. Et il a pour but d'accompagner la professionnalisation des porteurs de revues scientifiques et de favoriser la qualité éditoriale des publications. Il visera aussi à réinternaliser toutes les étapes du travail éditorial au sein des établissements ou des services éditoriaux s'ils existent. Et puis, il vise aussi à renforcer les presses universitaires hein, dans un contexte de science ouverte qui est, comme vous le savez, un des objectifs forts du Plan national Sciences ouvertes. Donc, le projet est financé et soutenu principalement donc, par l'appel à projet GIS Réseau Urfist, l'INSHS du CNRS, le réseau Médici, et nous bénéficions du soutien technique et humain d'Open Edition, et ainsi que du soutien technique et humain des Urfistes. Donc, à qui s'adresse ce module de formation? Donc, il y a divers publics cibles et divers modes d'approche hein, auxquels nous avons réfléchi. Bon, principalement, le SPOC s'adresse aux équipes de revues, hein, responsables de revues, équipes éditoriales, mais aussi à tous les professionnels de la documentation et des bibliothèques et des différents métiers qui gravitent autour de l'édition, qui sont susceptibles d'accompagner les équipes de revues, et ce, pour faire évoluer les pratiques professionnelles et favoriser l'acquisition de compétences. Donc, vous voyez qu'on a réfléchi à différents modes d'approche des publics, hein, le mode d'approche par les urfistes étant notre mode d'approche central, et c'est pour cela que nous avons un certain nombre d'urfistes qui sont force de proposition et membres de l'équipe projet. Nous avons aussi pensé à des modes d'approche par des établissements, par les pôles éditoriaux, par les universités, là où sont implantées en réalité les revues et où sont situées les équipes d'accompagnement. Donc, par ce biais-là, hein, qui est le biais voilà, formation-établissement, il y aurait la possibilité d'accompagner, de dispenser ce module de formation de différentes manières, hybrides, distancielles, tout distanciel, certaines briques en distanciel, d'autres en présentiel. Voilà. Il peut être présenté de diverses manières et les pôles éditoriaux peuvent s'en emparer. Et c'est aussi l'objet des modalités de la licence. Donc, La porte d'entrée, que ce soit par les urfistes ou par formation établissement, va donner lieu à une formation validée, certifiante, qui s'inscrit donc dans les processus de carrière des différents agents. Et puis, elle va donner lieu à la montée en compétences pour notamment des positions de responsabilité éditoriale. Donc, je vais laisser la parole. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc.
Oui, il faut que j'active mon micro.
Est-ce ah oui, d'accord. Tu veux que je garde la main, si tu veux, sur le PowerPoint ou tu veux que je te…
Oui, tu gardes la main.
Ça va?
Oui, tout à fait.
D'accord, très
donc,
bien.
Donc, en fait, ce projet, en fait, il associe un nombre assez important de collègues hein, qui ont décidé de s'associer dans ce projet. Hein. Alors, il associe aussi des institutions assez différentes, puisqu'on a des universités, on a des MSH, et au sein de ces institutions, on a des membres qui dépendent de services assez divers. Hein. On va avoir des gens qui sont rattachés à des presses universitaires, à des bibliothèques, aux urfistes, des services d'information scientifique et technique, d'autres qui dépendent de la direction d'appui à la recherche. Donc, une diversité d'expériences et de points de vue qui nous paraissaient intéressants et qui permettent justement voilà, d'aborder la question sous des angles qui sont assez divers. On peut voir l'équipe qui travaille sur le SPOC dans la prochaine diapo. Voilà, donc on a un comité de pilotage. Hein. Donc on a une chef d'orchestre qui est Françoise Bouzy, hein, qui anime l'ensemble du travail sur ce dispositif. Hein. 6 personnes qui sont membres du comité de pilotage, hein, donc avec et bien sûr pour chaque module, puisque je vais présenter les différents modules, hein, il y a 7 modules au sein de cette formation, hein, on a entre 1 et 3 copilotes, hein, par module, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait on a des profils assez différents, puisqu'on a des spécialistes de l'ingénierie pédagogique, d'autres qui sont spécialistes plutôt de l'ingénierie audiovisuelle, des éditeurs et éditrices, des documentalistes, des bibliothécaires. Donc là aussi, toujours un peu de diversité d'approches et de compétences qui peuvent se compléter. Alors, ce SPOC, il est divisé en 7 modules, en fait. Hein. Je vais donner quelques… Voilà, vous avez… les intitulés de ces modules, je vais en donner un tout petit peu, voilà, deux, trois informations sur chacun d'entre eux. Donc, le premier, environnement de l'édition scientifique ouverte, il vise à identifier et à appréhender le vocabulaire et les concepts de l'édition scientifique ouverte, hein, et notamment aussi à identifier les principaux acteurs, hein, et les missions de ces différents acteurs. Le deuxième, bon, cadre légal d'une revue scientifique, ben, il va s'intéresser à la démarche juridique de création d'une revue, à la mise en œuvre des contrats d'auteur, au choix des licences Creative Commons, mais aussi, par exemple, au droit de diffusion des images, hein, donc un module vraiment centré sur les questions juridiques. Un troisième module voilà, dont on va reparler, où il s'agit de mieux connaître et non seulement de connaître, mais de mettre en œuvre dans une revue, les standards internationaux de qualité scientifique. Le quatrième est plus centré sur le suivi éditorial. Il vise à identifier les principales missions d'un éditeur au sein d'une revue et les étapes du flux éditorial, en se concentrant notamment sur la préparation de copies. Le module 5, alors on passe vraiment à un autre aspect, hein, il est plus technique, hein, il vise à appréhender les enjeux de la structuration des métadonnées des contenus, hein, et de se familiariser avec certaines notions et certains concepts. Hein, alors on est plus dans l'initiation que dans la… Voilà, dans ce module 5 qui est plus technique, mais qui introduit le module 6, hein, le module 6 étant centré sur les outils d'édition ouverte structurée, et en particulier sur 3 outils, hein, OJS, METOP et LODEL, en essayant de voir quel est le périmètre de chaque outil et leur rôle qu'ils peuvent jouer dans le processus éditorial. Et puis, on termine sur un dernier module hein, qui est plus centré cette fois-ci sur les questions de référencement, hein, qui s'intéresse aux différents systèmes d'information et qui, avec des focus en particulier sur Mirabel, le DOAJ, Latindex et Isidore. Hein. Donc, on espère, hein, avec ces 7 modules, couvrir quand même des aspects très différents, mais très complémentaires, hein, et de pouvoir voilà, d'avoir une vision un peu globale des enjeux et du travail éditorial pour une revue. Alors, ce SPOC sera diffusé sur la plateforme Moodle. Tout au long de la formation, on vous serez, les personnes qui vont suivre ce SPOC hein, seront accompagnées par un duo hein, qui vont ouvrir et fermer chaque formation. Hein. Donc, Céline Bartona et Stéphane Renaud hein, qui vont, voilà, au cours d'un petit dialogue vidéo, introduire et éclore chaque module. Et bien sûr, il y aura des possibilités d'interaction entre référents des modules et puis les apprenants. Hein. Voilà, la formation en tout devrait constituer à peu près un temps de travail de 10 heures, hein, mais bon, qui sera plus ou moins long selon les compétences de base de l'apprenant. Voilà, donc on voudrait que ce SPOC soit un SPOC certifiant. Hein. On va délivrer un badge pour. Alors, ça sera un badge global hein, pour l'ensemble du SPOC. Il n'y aura pas de badge par module, hein, parce que voilà, ça serait un petit peu compliqué à mettre en œuvre, hein, mais vous voyez ici le calcul. Hein, voilà, pour chaque module, on va avoir des activités et des exercices. Hein, ces exercices rentreront à 30% dans l'évaluation du SPOC et puis 70% pour un test final hein, qui va récapituler un peu l'ensemble des acquis du SPOC. Voilà, et donc le badge, comme il est précisé dans la diapo, hein, le badge est attribué à une personne et non pas à une revue. Hein. Donc, c'est un badge individuel. Voilà, je redonne la parole à... Ah non, je ne donne pas la parole à Françoise, puisque c'est encore à moi. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'un apprenant pourrait se lancer dans ce SPOC hein, donc, il y a différents éléments qui nous paraissent importants. Hein. Des éléments voilà d'une démarche éthique hein, donc essayer de par rapport aux revues sur lesquelles on travaille essayer de d'avancer sur la question de transparence des procédures et d'avancer dans la science ouverte hein. Voilà ça passe par des questions d'accessibilité par un meilleur équilibre aussi entre les revues et les auteurs hein, donc redonner du pouvoir aux auteurs dans ce processus, hein, c'est des questions de bonne pratique éditoriale, hein, avec en s'appuyant sur des critères internationaux qui sont vérifiables. Hein, et puis, bien sûr, il y a aussi la question des outils, hein, essayer de mieux connaître, mieux maîtriser les outils sur lesquels on va s'appuyer, hein, de manière à améliorer les pratiques professionnelles, hein, mais aussi pour pouvoir aussi améliorer la visibilité institutionnelle de la revue et de l'institution qui porte la revue. Voilà, je redonne la parole à Françoise dans cette présentation.
Merci Jean-Luc. Alors, à travers ce schéma, on a essayé de représenter le mode d'exploitation du SPOC et puis les différentes étapes de l'administration et de l'exploitation. D'abord, l'hébergement. Donc, on a eu plusieurs phases de travail et plusieurs mêmes inquiétudes. On a commencé par travailler, et c'est encore le cas aujourd'hui, auprès d'un hébergement privé. Hein. On a un Moodle via un hébergement privé avec un nom de domaine, etc., qu'on a renouvelé deux ans de suite, compte tenu du fait qu'on n'est pas arrivé à trouver une plateforme, une infrastructure public qui correspondait à nos attentes, à nos demandes. en termes de maintien et d'administration technique. Donc, on avait démarché, hein, Humanum, etc. Et puis, bon, là, on est content parce qu'on est arrivé à trouver la possibilité de s'inscrire, d'inscrire le Moodle sur la plateforme Moodle qui s'appelle Callisto, hein, qui est soutenue par le MESRI et qui va avoir le jour très, très bientôt, qui est sous la version 3.9, hein, de Moodle. Donc, le SPOC va être hébergé sur cette instance nationale, donc c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et donc, c'est une plateforme qui est financée par le ministère et qui regroupera des contenus pédagogiques de différentes instances, de Saturfist, de 12 CRFCB, de Xdoranum, bref, une vingtaine de partenaires, hein, à ce projet, avec des sous-instances Moodle prévues. Donc, courant été, un peu avant l'été, on va migrer tout doucement vers cette instance-là. Ensuite, se pose la question des inscriptions. Donc, on va travailler de très près avec les URFIST, hein, qui vont être les organismes qui vont gérer le système d'inscription qui va passer donc par Cigefor, hein, tout simplement. Cigefor n'est pas forcément lié au territoire français, donc il peut prendre en charge complètement des inscrits de la zone francophone, hein, comme nous avons dans l'équipe un collègue de l'Université de Liège. On a bien sûr essayé de gérer ces questions et de s'assurer que ce n'était pas limité au territoire français. Donc, alors... un petit mot sur l'acronyme, hein, SPOC MOOC, enfin Small Private Online Course. On a choisi ce dispositif parce que on s'adresse à un public cible assez restreint, à la différence d'un MOOC qui s'adresse à un large public. Mais pour autant, comme vous l'avez vu, c'est un dispositif gratuit, ouvert, qui est sous licence. Le P de Private implique en fait que toutes les ressources sont accessibles, mais les activités ne le sont pas. Voilà, en fait, c'est ça, hein, on peut consulter le SPOC en visiteur anonyme. Voilà. Donc, l'inscription via l'URFIST donne lieu à la délivrance d'un badge et en particulier au concept d'open badge qui est maintenant pris en charge par les URFIST, hein, qui se sont emparés de ce concept avec l'idée aussi des labels sciences ouvertes, hein, qui sont une idée, une grande thématique développée aussi dans le Plan national sciences ouvertes. Donc, ce sont les URFIST qui sont pour nous les organismes certifiants. Donc, on a l'idée de sélectionner les candidats. Enfin, de sélectionner les candidats. Comment les candidats seront retenus finalement? On a prévu d'envoyer un petit formulaire qui peut être fait au préalable, hein, aux inscrits en posant quelques questions sur leur position par rapport à la revue, les motivations. Et ça nous permettra de sélectionner et de valider les demandes d'inscription. Via un mail de préinscription via Cigefor, par exemple. Donc, la gestion des badges, effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, c'est un badge global. Hein. On pouvait délivrer un badge par module, mais on a considéré que c'était trop lourd à gérer en termes de moyens humains. Donc, il n'y aura pas de badge intermédiaire. C'est vraiment un badge global et c'est du coup un petit peu moins lourd. Le calibrage de la... et la fréquence de la formation, hein, donc c'est chaque apprenant qui pourra fonctionner à sa vitesse. Et on est parti sur l'idée d'avoir environ une cinquantaine d'inscrits par jeu du SPOC, hein, pour que les équipes des référents des modules puissent les accompagner correctement. Les jeux, une fois qu'ils sont lancés, sont ouverts pour un mois et on a prévu un peu deux temps, deux sessions du SPOC dans l'année, une en septembre, une en mars. Voilà, on va commencer comme ça, on va voir comment ça se passe, hein. Donc, la mise en production est prévue en septembre. Au niveau du suivi et de la maintenance, donc ça, c'est aussi tout à fait exploratoire, hein. On va tester ça cette année. Il y a plusieurs possibilités qu'on a envisagées, soit un cumul d'activités que l'on intègre hein, les membres de l'équipe Spock Hero, en particulier les pilotes de module, puisque bon, c'est un engagement assez fort hein, des personnes, des différents collègues, soit l'activité est prise sur le temps de travail en accord avec sa hiérarchie ou ses tutelles, soit on pourra éventuellement faire appel à des intervenants extérieurs, peut-être sur des financements de type appel à projet. Bon, là, je parle pour le futur, hein. En tout cas, voilà, dans tous les cas, c'est une manière de consolider notre expérience professionnelle, avec tous ces aspects d'ingénierie pédagogique. Alors, le futur, qu'est-ce qu'on a en tête pour après? Eh bien, d'abord, bon, c'est évident que le Spock Hero fera probablement, donnera lieu à des mises à jour hein, constantes. Donc, il y aura d'autres versions à l'adaptation de la plateforme par rapport aux évolutions techniques aussi du Moodle. Et ça sera une des missions de l'ingénieur repère, hein, de l'ingénieur d'études repère qui a été recruté par l'équipe de Lyon, là, tout récemment. Si tu veux en dire un mot, Jean-Luc. Des formations adaptées, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc, possibilité de jouer l'intégralité du Spock par module, en distanciel, hybride, présentiel. Par exemple, à Toulouse, là, on a prévu en juin de dispenser trois modules de formation autour du suivi éditorial, des critères de qualité et du cadre légal. Alors, ce n'est pas la réplique exacte de ce qui est dispensé en Spock, hein, parce que ce sont d'ailleurs des intervenants différents, sauf pour les critères de qualité. Mais c'est une des premières adaptations on espère que ce sera en présentiel, donc bon, on verra. L'autre projet intéressant qui pourrait faire l'objet d'un financement, d'ailleurs, je pense, par appel à projet, c'est la traduction et l'adaptation des contenus, en particulier pour le cadre légal, en anglais et en espagnol, en vue d'une exportation ou en tout cas d'une diffusion plus large au niveau international du Spock Hero. Donc, je dis cadre légal parce que le cadre légal, là, il s'applique à la zone française. Donc, il est évident qu'il sera nécessaire d'adapter les contenus si on veut en faire une diffusion plus large. Collaboration à l'international, et ça va avec, hein, avec des pépinières ou des systèmes d'information sciences ouvertes, DOAJ, Latinex. Bon, il y a différents projets et collaborations qui pourraient être imaginés. Et puis, pourquoi pas imaginer un Spock Hero dédié aux ouvrages, puisque ce Spock Hero est destiné au périmètre des revues scientifiques. Voilà, donc là, c'est encore tout un autre pan. Ça répond aussi assez bien aux besoins du plan national Sciences ouvertes, et en particulier numéro du plan national 2, hein, qui devrait sortir sous peu, et qui donnera une part belle aux ouvrages et à une meilleure diffusion des ouvrages en libre accès, avec donc édition structurée, bien entendu. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez, on a tenu donc 30 minutes, voilà, pour cette première présentation. Si vous avez des questions, une première série de questions peut-être par rapport à ces différents éléments.
La présentation est sans doute parfaite. Ben moi, je me posais des questions par rapport un petit peu comment il y a un suivi et je me demandais comment se faisait le suivi par rapport, enfin, les intervenants, comment ça se passait, quoi. Il y a un suivi individuel, si j'ai bien compris.
Des apprenants.
Oui, des
Oui,
apprenants.
oui, oui.
Alors, comment les intervenants intervenaient? Enfin,
Oui, en
voilà.
fait, oui, ça fonctionne. Alors ça, c'est quelque chose que on peut pas trop vous faire de retour d'expérience là-dessus, puisque on n'a pas encore commencé à jouer la première session. Mais bon, effectivement, il y aura des référents, sorte de tuteurs, qui seront en quelque sorte connectés hein, pendant les sessions d'ouverture du Spock. Et donc, il y a un système de discussion, il y a un tableau de bord, il y a une sorte de chat à l'intérieur du Moodle, et on peut accompagner les apprenants de cette manière.
D'accord.
Voilà.
Il y a une question de Laurent, d'Open Edition.
Oui.
On lui laisse la parole.
Oui. Oui, merci. J'ai une petite question sur la part évaluative, parce qu'on a un petit peu la même réflexion en ce moment à Open Edition. Je suis chargé d'ingénierie pédagogique. Vous avez fait réparti sur l'ensemble du SPOC 30% en évaluation, en utilisant des outils d'évaluation sur Moodle, et 70% de la note pour la validation des acquis pour la délivrance du badge sous une autre forme. Est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu la logique derrière l'évaluation et comment se fait la répartition et qu'est-ce qu'elle recouvre?
Alors ça, là vous nous prenez un petit peu de cours, parce que cette dernière partie évaluation, on est en train de l'affiner là, de la travailler. Le SPOC, il est prévu pour un lancement en septembre, hein, donc on a encore des choses à fignoler au niveau de l'évaluation, de la certification et des inscriptions. Bon, je vais peut-être pas être très complète là dans ma réponse, et c'est notre ingénieur pédagogique du projet qui nous accompagne beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, oui, on a considéré qu'il fallait pas trop mettre l'évaluation, en tout cas un pourcentage trop fort sur les activités, pour éviter de bloquer en fait les apprenants et qu'ils puissent aller d'un module à un autre sans être arrêtés, et qu'ils puissent faire la totalité en fait des modules. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a supprimé la notion de badge intermédiaire, parce que sinon l'idée étant de sensibiliser, de professionnaliser à l'ensemble des thématiques qui sont présentées en vue de donner une première et puis c'est pas un diplôme, hein, on n'est pas du tout il y a quand même la différence avec la notion de formation diplômante. On trouvait plus intéressant de pousser l'apprenant sur la totalité des activités et des modules, avec un pourcentage de points maximum en fin de. Voilà, je ne sais pas si je réponds très bien, mais pour l'instant,
Non, si, très bien. C'est le niveau de détail que je voulais simplement. Donc, il n'y a pas de souci. C'est normal que ce soit en gestation encore, la préparation de l'évaluation. Ouais.
Ouais.
Merci, merci pour votre réponse.
Avec plaisir. Voilà, bon, on a encore une heure, hein, devant.
Il y a des questions sur le chat.
Oui, ok.
Sur combien de temps au total se déroulera la formation complète? Je crois que...
On l'a dit, oui, oui. 10 heures, environ 10 heures. Estimé, c'est estimé.
Ben
environ
voilà,
10 heures, oui.
Je crois que ça répond aux deux questions, il me semble.
Je ne sais pas s'il y a plus de temps, du coup, j'aurai peut-être d'autres questions à poser, mais donc je ne sais pas si vous avez prévu d'autres présentations.
Oui, oui, c'est pas fini là, l'atelier.
D'accord,
c'est pour ça il y aura un autre temps de chat et de questions, et peut-être qu'on répondra d'ailleurs à des questions. Donc, je ne sais pas, Armel, Cécile, Jean-Luc, ce que vous en pensez, mais peut-être on peut continuer aussi, parce qu'on a prévu de vous faire des démos.
D'accord, bon, ouais, très bien.
Petit retour d'expérience, donc peut-être.
Très bien, merci, je vous laisse la parole. Merci.
Oui, là, en fait, on va prendre un deuxième temps où on va plus rentrer dans le SPOC. On va vous montrer quelques éléments. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de chartage graphique pour l'instant. Le SPOC va contenir un nombre assez important de vidéos. Ces vidéos sont toutes en montage. Donc, pour l'instant, on a l'emplacement des vidéos. On n'a pas les vidéos ou très peu. Donc, il faut bien voir que on est quand même dans du brut de décoffrage, on va dire. Et je vais donner la parole à Armel, qui va commencer on va se centrer sur trois modules. Hein. On va en tout cas donner quelques éléments sur trois modules. Je donne la parole à Armel, qui va commencer par le module 4, me semble-t-il, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Alors voilà, donc moi je ne vous vois plus, hein, maintenant je suis sur mon écran et je viens d'afficher, normalement vous le voyez, le SPOC en question qui, on l'a déjà dit, est en cours de construction, il est déjà bien 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 avancé, mais on va vous montrer des choses qui sont quand même encore, c'est du work in progress. Et donc, nous avons choisi là de présenter pour commencer le module 4 de ce SPOC en ligne, qui est un module dédié au suivi éditorial d'une revue. Alors, en tant que documentaliste et donc non-éditrice, je vais me mettre dans la peau d'une apprenante et je vais vous faire participer. Pour présenter ce module sur le suivi éditorial d'une revue, il a été piloté par Anaïs Pally et Florence Daniel, toutes deux éditrices à la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Et comme j'ai vu que Florence était connectée, je lui demanderai d'intervenir si des choses ne sont pas correctes dans la présentation ou s'il y a des réponses qu'elle peut apporter pour lesquelles, enfin, moi, je n'aurai pas la réponse, en tout cas, pour certaines questions. Et donc, il a été piloté par Anaïs et Florence et il a été aussi remarquablement mené par les autres membres du groupe de travail sur ce module qui sont Bernard Pocher de l'Université de Liège, qui est également responsable de la pépinière Pop-Ups, et Marie-Françoise Brémond de l'Université Toulouse Capitole. Alors, dans ce module sur le suivi éditorial d'une revue, l'objectif principal, c'est de faire comprendre à l'apprenant qui va suivre l'enseignement que le suivi éditorial des articles d'une revue, c'est essentiel à la qualité éditoriale de l'ensemble de la revue. Donc, quand on parle du suivi éditorial, il va de la soumission à la fabrication de l'article. Ce module devrait permettre à un apprenant de mieux comprendre l'ensemble des missions et des tâches d'un éditeur ou d'un secrétaire de rédaction dans le contexte du suivi éditorial. Alors, je vais me connecter sur l'instance de démo numéro 4, donc pour le module 4. Et on va essayer de voir ensemble rapidement, pas toutes les activités, mais certaines en particulier. Cela dit, je peux dire un petit mot à ce sujet. Quelles sont les activités d'apprentissage qui seront réalisées par les apprenants? Alors, il faut voir, là, on n'a rien en ligne, mais il y aura, comme le disait déjà Jean-Luc et même l'avait évoqué Françoise, qu'il y aura des vidéos. Et par exemple, là, une vidéo qui introduit le module. On retrouve dès le départ tous les objectifs. Donc, l'objectif, je l'ai dit globalement, c'est de comprendre ce qu'est le suivi éditorial, de la soumission de l'article à sa fabrication. Mais très précisément, les objectifs qui sont poursuivis par l'ensemble des modules, ils ont été déclinés dès le départ. Et pour celui-ci, il s'agit de découvrir notamment deux des principales missions d'un éditeur. Le suivi du flux éditorial et la préparation de copies, et d'identifier des étapes, voilà, de connaître les principaux acteurs, etc. Alors, il y aura une petite vidéo d'introduction, comme je le disais. On trouvera une autre vidéo très intéressante d'un expert. En l'occurrence, pour ce module, ce sera Clémence de Clavière, qui était précédemment éditrice, et qui fera une présentation qui permet, enfin, une présentation sur... le thème « Être éditeur d'une revue scientifique, c'est un métier aux multiples facettes ». Et à travers cette vidéo, aussi bien qu'à travers la première activité, on va dire, une présentation de l'ensemble de l'activité suivie éditoriale, on va découvrir ce que ce module doit nous apprendre. Et aussi bien cette vidéo que donc... la présentation du suivi éditorial sont des choses sur lesquelles l'apprenant va pouvoir revenir par la suite pour trouver des réponses à des questions. Et maintenant, je vais vous présenter concrètement une activité. Le choix s'est fait sur deux activités. Là, je vais commencer par la première, la mise en ordre des tâches du flux éditorial. C'est une activité durant laquelle vous allez m'aider à mettre dans l'ordre les différentes étapes du flux éditorial. Voilà, alors je clique et voilà comment elle se présente. L'étape 1, c'est un auteur qui soumet son article. Et ensuite, on a toutes les étapes qui sont là. Je pense que vous voyez mon curseur et j'ai sélectionné toutes les étapes et je vais vous demander de m'aider, peut-être à travers le chat. Mais comme je ne le vois pas, je vais demander à mes collègues de me dire quelles sont vos suggestions. Je vais vous demander de m'aider à les remettre dans l'ordre. Donc, après la soumission de l'article, à votre avis, quelle serait l'étape numéro 2 que je vais glisser? Est-ce que le comité de rédaction accepte l'article pour publication en étape 2? Non, certainement pas. Donc, je vous laisse réagir sur le chat et je vais demander à mes collègues de me dire quels choix ont été faits. Et on va essayer ensemble de mettre toutes ces étapes dans l'ordre. Je vous mets dans la peau d'un apprenant.
On guette, hein, on guette. On guette au coin du bois. Il faut prendre connaissance de tous les intitulés, peut-être.
Ah oui, c'est clair. Après la soumission de l'article, j'en profite moi aussi pour le refaire.
Oui, on s'était.
Alors là, on a un petit recevabilité.
Ah, bingo. De toute façon, on verra à la fin de l'étape. À la fin de toute l'activité, si c'est correct. Mmh. Et comme nous souhaitons de toute façon avoir une réponse incorrecte pour vous montrer comment ça se passe. Donc, bingo, étape 2, la rédaction en chef évalue la recevabilité de l'article.
Après, c'est une désignation des évaluateurs. Ouais.
Alors, ça se trouve, désigne les évaluateurs. Étape 3, très bien. Étape 4, après la désignation des évaluateurs. Bah, je suppose, alors là, je vais vous aider quand même. Hein. Les évaluateurs examinent l'article, j'imagine. Ça a été suggéré, certainement. Allez, allons-y. Alors, étape 5. Les évaluateurs examinent les articles.
D'après vous, qu'est-ce qu'il y a après comme étape?
Le CR étudie les évaluations.
C'est ça. Étape 5, le comité de rédaction étudie les évaluations. Je passe à l'étape 6. Après avoir étudié les évaluations.
Non, ça réagit hein, là, sur le chat. Il faut attendre un tout petit peu. Comité de rédaction envoie ses recommandations.
Étape 6, c'est parfait. J'espère que Florence ne participe pas, hein, puisqu'elle a créé.
Non, elle participe pas.
Étape 7.
Elle sourit.
Après que le comité de rédaction a envoyé ses recommandations à l'auteur, étape 7. Bon, on peut imaginer que l'auteur étudie les recommandations.
Voilà.
Et envoie sa nouvelle version de son article. Ouais. Étape 8, on est bientôt à la fin. Il renvoie une nouvelle version de son article.
Mmh. Voilà, auteur étudiant renvoie. Mise en page. Quelqu'un qui dit mise en page.
Ah, je mets ça, mise en page.
Et après, il y a vérifie la nouvelle version. Comité vérifie la nouvelle version. Et ensuite, 9. Accepte l'article.
Alors, le comité accepte l'article.
Et puis, c'est l'évaluateur vérifie nouvelle version.
Non, il était déjà pris.
Ah.
Il nous reste le secrétaire de rédaction relit les épreuves et le secrétaire de rédaction effectue la préparation de copie. Eh bien, écoutez, on va mettre
prépa copie.
Et le 12, voilà. Donc, nous avons rempli ensemble cette activité et nous allons voir dans quelle mesure nous avons bien répondu. Et voilà comment ça se traduit. Il y a donc des étapes en rouge qui nous indiquent que nous n'avons pas fait les choses dans l'ordre. Et on nous suggère soit de recommencer, à ce moment-là, on repart de zéro. Donc, pour gagner du temps, je vais nous éviter cette étape tout de suite. On va aller voir la correction. Donc, en gros, après que l'auteur a soumis son article, la deuxième étape…
C'était le 9, le comité de rédaction accepte.
Non, ça, c'est vers la fin. L'étape 2, c'est la rédaction en chef évalue la recevabilité de l'article. Étape 3, oui, le comité de rédaction désigne les évaluateurs.
Oui.
Étape 4, les évaluateurs examinent l'article. Étape 5, le comité de rédaction étudie les évaluations. Étape 6, le comité de rédaction envoie ses recommandations à l'auteur. Étape 7, l'auteur envoie une nouvelle version de son article. Étape 8, et c'est là, en fait, qu'on a commencé à se tromper. L'étape 8, c'est que le comité de rédaction et où les évaluateurs vérifient la nouvelle version de l'article. Voilà. Et ensuite, étape 9, le comité de rédaction accepte l'article pour publication. Il est ensuite, il y a une préparation de copie qui est effectuée par le secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction met en page mettre en page ou en ligne l'article. Et au final, on a l'étape 12, le secrétaire de rédaction relie les épreuves et la publication est lancée. Donc voilà, on n'a pas totalement validé, donc je peux recommencer, sachant que maintenant j'ai un aperçu de toutes les étapes dans le bon ordre. Et si je recommence et que je remets tout dans l'ordre, je vais avoir un 100% ici, tout sera en vert et mon activité sera validée. Donc, ce qu'il faut voir là, c'est que sur ce type d'activité, puisqu'il s'agit de les mettre dans l'ordre, nous n'avons aucun feedback. C'est quoi un feedback ? C'est une espèce de commentaire qui nous permet d'apprendre tout en faisant une activité. Dans un autre exercice que je vais vous montrer, oui, il y a des feedbacks. Alors, je ne vous vois pas, mais si vous êtes tous d'accord, je décide de ne pas tout à fait recommencer tout de suite cette étape-là et de passer à une autre activité. Une autre activité qui va être l'identification de tâches ne faisant pas partie du flux éditorial. Toujours dans ce même module, c'est une activité que nous jugeons super intéressante parce que celle-là nous fait voir les étapes qui ne font pas partie du flux éditorial et elle va nous proposer des feedbacks. Alors là, je ne vous fais pas participer, enfin je vais vérifier l'heure, mais a priori, voilà, il faut que j'avance. Je vais décider de cocher une sur deux en faisant semblant donc je sélectionne ici les tâches qui ne font pas partie du flux éditorial. Bon, je les ai mises totalement au hasard pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne après coup. Donc, ce qui est en vert, c'est effectivement une tâche qui ne fait pas partie du flux éditorial. Ce qui est en gris comme ça, sans feedback, ce qui est en gris comme ici, sans feedback, c'est effectivement une activité qui fait partie du flux éditorial et que j'ai choisi de ne pas cocher. En revanche, j'ai coché des activités pour lesquelles on me dit que non, je me suis trompée et sur lesquelles on me fait un feedback, un commentaire. Cette tâche fait partie du flux éditorial, qu'elle se répète pour chaque numéro de revue. Voilà. Donc, je peux recommencer et décider donc quelles sont les tâches qui ne font pas partie du flux éditorial. Alors, l'élaboration de la ligne éditoriale ne fait pas partie du flux puisqu'elle est définie en amont et définitif. La rédaction des consignes aux auteurs également et la création de la maquette de la revue sont toutes trois des activités, des tâches qui ne font pas partie du flux. J'affiche les réponses, tout est bon et je viens de valider 100% mon activité. Donc là, c'est un autre type d'activité sur lesquelles on peut avoir au fur et à mesure un feedback qui nous permet d'être dans une situation d'apprentissage tout en faisant un exercice.
Pardon, je me permets d'intervenir parce qu'il y a, mais peut-être Cécile, je vois qu'il y a quelques questions. Donc,
je me posais la question de savoir mais si
c'est bon. C'est bon, Armelle ?
Oui, justement, c'est pour ça, on peut passer aux questions. Alors, oui, je vais afficher les participants.
Il y a une première remarque d'Anne Bertrand qui dit que ce n'est pas toujours exactement les mêmes étapes suivant les revues et les éditeurs, mais l'enchaînement est logique, mais l'exercice à distance n'est pas toujours très facile. Voilà. Isabelle Treff, ne pourrait-on pas prévoir un classement par étape pour vérifier l'ordre avant la validation ? Cela permettrait de mieux vérifier les étapes après le choix. Et je pose la dernière question, le nombre d'essais est-il limité ?
C'est une bonne question sur le nombre d'essais, on peut le faire plusieurs fois. Donc, je suppose qu'il est illimité jusqu'à ce qu'on l'ait validé, mais après, on peut encore y revenir pour… Parce que c'est vrai que quand on est en situation de faire l'exercice, on apprend en même temps qu'on fait et c'est intéressant. Voilà. Après, pour les autres questions, excuse-moi, c'est allé un peu vite la précédente.
Oui, alors, Isabelle Treff, je pense comprendre qu'en fait, il faudrait un affichage ensuite de l'ordre que l'on… Enfin, ne pourrait-on pas prévoir un classement par étape pour vérifier l'ordre avant validation ? Je suppose que ça veut dire…
Si, je comprends. Bon. Je me suis posé la question la première fois que j'ai fait l'exercice et la deuxième fois, elle ne se posait plus la question. Donc, je pense que là, la démonstration, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, les personnes la découvrent pour la première fois. En ce qui me concerne, je me suis dit la même chose la première fois et puis finalement, quand je l'ai refait, ça ne se posait plus. Mais je ne sais pas si là, je ne peux pas répondre. Il faudrait que ce soit l'ingénieur TIS. Peut-être que Florence, tu as la réponse, mais c'est l'ingénieur TIS qui pourrait peut-être y répondre. Je te laisse la parole, Florence.
Oui, en fait, on est en train d'y travailler avec l'ingénieur pédagogique pour avoir un schéma qui permettrait de voir ensuite toutes les étapes dans l'ordre. Alors, soit à la fin de cette activité ou soit carrément tout à la fin du flux éditorial pour
ce qu'elle se réimbrique. Et c'est vrai que c'est…
Voilà, dans l'ordre, que ça serait important.
Isabelle Treffe, moi je posais cette question parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu illisible. Donc, avant de valider notre choix définitif, je trouve que ça serait bien de remettre les étapes qu'on a choisies dans l'ordre pour revérifier qu'on ne s'est pas trompé. Parce que là, en faisant l'exercice avec vous, je ne savais plus où j'en étais.
Oui, mais
je pense que ça serait bien. Enfin bon, voilà, je ne sais plus.
Mais je suis d'accord avec toi, Isabelle. Mais alors, il faut voir deux choses. D'abord, je le redis, c'est moi qui avais la main. Et je l'ai vu en le faisant, puisque je ne suis pas du tout éditrice, en fait, on s'approprie visuellement quand même assez rapidement le module. Donc, tout le monde le découvre, tandis que je le fais. On n'est pas tout à fait dans une situation d'un apprenant qui est déjà passé par d'autres modules. Et ce qui est intéressant aussi dans cet exercice, c'est que si on le recommence, puisque quelqu'un a posé la question de savoir si on avait plusieurs essais, c'est possible. Et à chaque fois qu'on réessaye, les propositions ne sont pas forcément dans l'ordre qu'elles avaient été proposées la fois précédente. Donc, elles ont été de nouveau mélangées, ce qui fait que ça permet de se conforter dans les connaissances qu'on a acquises la première fois en retestant, en fait. Voilà.
Oui, non, c'est juste qu'une fois qu'on a fait notre choix, quelle que soit l'apparition des phrases, enfin des étapes, qu'on puisse avoir un récapitulatif en disant, bon, 1, c'est ça, etc., plutôt que d'avoir, bon, la 2, elle est en bas.
C'est ce qu'a dit Florence, c'est qu'ils sont en train de travailler à cette organisation définitive finale qui doit être proposée visuellement avec l'ingénieur TIS.
Mais ce n'est pas sûr que ce soit possible dans Moodle.
Donc,
d'accord,
on va voir.
Oui, oui.
Et si ce n'est pas possible, effectivement, ce sera peut-être envisageable d'avoir comme une page qui s'affiche et qui le récapitule. C'est une sorte de feedback final, en fait. Voilà. Donc, je vais laisser la parole. Je pense s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, en fait.
Je vais peut-être ajouter un complément à des questions auxquelles j'ai répondu. Je me suis permise de répondre directement pour gagner du temps, Cécile, mais oui. Juste un complément. Il y a des questions qui sont posées là par les collègues par rapport au vocabulaire qui est abordé dans ce module de formation et un glossaire, donc Laurent hein, d'Open Edition. Donc, effectivement, nous avons fait un glossaire avec les membres de tous les modules. Hein. Tout le monde a alimenté avec le vocabulaire qu'il a manipulé dans les différentes thématiques, a alimenté ce glossaire et on va l'importer. Il y a une fonctionnalité glossaire dans Moodle et ça permettra aux apprenants de se référer à ce glossaire régulièrement voilà, pour vérifier certains termes de vocabulaire. Donc, et effectivement, alors, vous dites, Valérie, voilà, le vocabulaire correspond, est-ce que vous avez pris en compte le vocabulaire correspondant pour l'édition privée? Alors, on se situe dans un contexte d'édition scientifique publique ouverte. C'est le contexte choisi du module de formation. Mais par contre, ces termes-là, la pré-print, post-print, par exemple, on a donné une définition aussi de APC. Voilà, il y a certains termes qu'on a choisi de définir qui sont de toute façon qu'on ne peut pas exclure et qui cohabitent avec les modèles d'édition publique. J'espère avoir répondu aux questions de vocabulaire.
Donc, si toutes les questions ont été posées, Alors, j'insiste, je n'ai pas présenté un texte introductif qui est quelque chose à lire en amont, parce que j'avais vu que ça prendrait un petit peu de temps de faire un test avec tout le monde. Mais c'est ça qui fait qu'il y a un contenu intéressant sur lequel on va pouvoir s'appuyer au moment des activités. Je vais passer la parole à Jean-Luc pour la démonstration. Ou je me trompe? Oui, c'est ça.
C'est bien moi.
D'accord, sur la démonstration sur un autre module.
Est-ce que vous voyez le module 5?
Oui.
Voilà. Alors ça, c'est un module qui, comme on le disait, qui est voilà, structuration, normalisation d'une, pour nous. Alors le titre est en train d'évoluer, parce que là aussi, on est parti de certains intitulés qui, au fur et à mesure des fois, au cours de la réflexion, ont évolué. Donc, alors, comme je le disais, c'est un module qui est beaucoup plus technique, hein, mais qui a vocation. Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire des apprenants, des spécialistes de ces questions techniques, hein, mais d'être dans un niveau de compréhension à des enjeux, d'éléments techniques que sont la structuration des métadonnées, des contenus. Hein. Donc, avec deux objectifs, hein, qui sont voilà, de connaître les formats de structuration et connaître les principes de structuration des métadonnées des contenus. Hein. Et on a là aussi, donc là on a quatre activités hein, qui sont proposées, avec pour chaque activité un exercice hein, qui suit l'activité, qui va être voilà, replacer un certain nombre de mots d'expression dans un texte, des QCM, évaluer si des propositions sont vraies ou fausses, etc. Hein. Donc, qui vise à voilà, faire un panorama de ces concepts hein, et aussi comment dire, de permettre à un apprenant d'être, par exemple, face à un document XML et de pouvoir arriver à identifier quelques éléments, hein, qui, par exemple, les métadonnées, où est-ce qu'elles sont, comment est-ce qu'on les repère, etc. Donc, arriver à repérer quelques éléments dans un document XML, par exemple. Alors, comme on le disait, chaque module est introduit par une petite discussion entre Céline Bertena
Stéphane Renaud.
Et Stéphane, qui pose les enjeux du module. Hein. Et puis, on a une parole d'expert. Hein. Donc là, c'est Mélanie Carmona d'Open Edition. Hein. Qui va présenter hein, donc, en quoi la structuration des métadonnées des contenus est importante pour des plateformes comme Open Edition Journals et Books. Hein. Qu'est-ce qu'elle va permettre en termes de génération, d'index, de table des matières, de table des illustrations, de dissémination des métadonnées auprès d'autres partenaires, etc., etc. Donc, en quoi, hein, concrètement, qu'est-ce que ça donne sur des plateformes comme sur les plateformes d'Open Edition, hein, de s'appuyer sur des documents hein, et des métadonnées qui sont structurées. Et ensuite, on a une petite introduction. Hein, voilà, qu'est-ce qu'un format structurant hein, petite introduction qui est sous forme de question. Hein, que signifie l'expression structuration? Pourquoi s'intéresser au fond plutôt qu'à la forme? Et alors, on est dans du textuel. Hein, qui va essayer de, sous forme de voilà, quelques réponses qui donnent les enjeux. Hein, et on passe ensuite à, voilà, dans cette petite introduction hein, qui pose un peu les enjeux, un petit texte hein, qui va mener à, voilà, on va devoir replacer des éléments dans le texte. Et là aussi, on a un feedback. Hein, pour chaque réponse, qu'elle soit positive ou négative, hein, on redéfinit qu'est-ce que signifie sémantique dans le contexte de l'édition structurée, qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité, par normalisation, métadonnées. Donc, essayer de, voilà, à travers les feedbacks de cet exercice, hein, bien comprendre quels sont déjà les vocabulaires et les concepts de l'édition. Je déroule juste le début hein, de cette formation. Hein, ensuite, on a une petite introduction XML. Hein, on va quand même avoir un peu d'apprentissage de voilà, qu'est-ce que c'est que le format. Voilà, alors c'est très très court hein. Et aussi quand même on rentre un tout petit peu dans la technique hein. Quels sont quelques éléments de syntaxe du XML. Alors on se rend bien compte que ça c'est pas toujours facile à appréhender dans un document plus textuel. Donc, on a ce module est parsemé de quelques vidéos. C'est les collègues du service formation de la BU Lyon 3 qui nous ont aidés à concevoir ces vidéos. Hein. Donc, quelques vidéos qui vont permettre de. Voilà, sur la syntaxe du XML. Hein, donc là, vous n'allez pas entendre grand-chose, c'est juste pour vous montrer. Hein, voilà, donc quelques éléments qui vont permettre de repérer qu'est-ce que c'est que. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une. Qu'est-ce que. Voilà, le langage de balisage, hein, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Donc je ne vais pas vous le montrer plus en avant, mais on a quelques vidéos hein, qui ponctuent ces différentes activités de ce module qui est un petit peu plus aride, hein, mais qui nous paraît essentiel. Voilà, il y a une compréhension nécessaire hein, des enjeux du numérique et de l'impact du numérique sur l'édition scientifique ouverte aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Hein, juste pour terminer sur ce module, dire que c'est un module que auquel a participé Edith Caner de METOP, Christophe Lopez des presses universitaires de la Méditerranée, et puis Bernard Pochet de l'université de Liège. Hein, c'est moi qui pilotais ce module. Et on a, comme je le disais, un coup de main des collègues de deux collègues, Vincent Chollier et Gildas Bourric de la bibliothèque de Lyon 3. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce module. J'ai arrêté de partager l'écran.
Pour l'instant, par rapport à ce module, il n'y a pas de questions. C'est plus une question générale.
Oui, donc sur le panorama des publics et des apprenants visés, hein, en fait, on vise un peu l'ensemble des membres des équipes éditoriales des revues, hein, que ce soit des responsables de revues, des membres des comités de rédaction. Ça peut être des personnes qui interviennent dans le processus éditorial, mais qui ont des besoins de professionnalisation. Hein. Donc, on vise un public assez large. Hein. Comme on le disait, c'est une formation, c'est pas une formation approfondie qui vise à former de A à Z un éditeur ou une éditrice, hein, mais qui vise à apporter des éléments de base hein, pour pouvoir avancer dans le processus d'apprentissage et de travail hein, sur les. Donc en fait, c'est un peu la difficulté, hein, mais on vise un public. Françoise, tu pourras peut-être compléter, mais on vise un public qui est assez large et qui a des besoins qui peuvent être relativement divers.
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors, une autre question sur la possibilité d'exporter les contenus, si besoin, vers une autre instance Moodle et également la mise à jour des contenus. Communication de H5P avec Moodle.
On vous enverra le lien de notre ingénieur pédagogique.
Mais il en a parlé. De la communication oui. De H5P avec Moodle. Ouais. En tout cas, c'est son rôle à lui. Donc, Cédric Poronnet à Toulouse.
Je veux bien avoir son je veux ouais. bien avoir son contact. Merci.
Mais en tout cas.
C'est pas oui. des questions pièges. Hein. C'est pas des questions pièges. C'est vraiment.
Communication. Juste, voilà. Vous voulez savoir si c'est compatible H5P
enfin, Non, si c'était simplement si on par exemple, quand on modifie une activité H5P, est-ce qu'on le fait en local sur Moodle ? Ou est-ce qu'elle est faite sur un autre service, sur le service en ligne H5P, auquel cas on modifie l'activité sur le service en ligne H5P et l'interopérabilité avec Moodle permet de répercuter le changement automatiquement vers la plateforme Moodle, en fait.
Il est très clair qu'il n'y a que Cédric qui peut
oui, là,
de répondre à ça. Hein.
Je ne sais pas. Moi, il me semble qu'on intervient sur notre Moodle, hein, mais... Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, je peux vous donner son mail. Hein.
D'accord.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, on a vérifié la possibilité d'export de notre Moodle là, qui est sur un hébergement privé. Là, on est auprès de Amen France là, pour l'instant. Oui. Et on va migrer vers Callisto. Et a priori, ça ne devrait pas poser de problème. C'est, voilà, on a déjà envisagé les modalités techniques là, d'export. Et d'après notre ingé pédagogique, ça a l'air de correspondre, quoi, de fonctionner. Mais en tout cas, oui, on préfère vous renvoyer vers lui parce que là, il sera. C'est pas pour rien qu'on l'a pris dans l'équipe, quoi.
D'accord.
C'est vraiment un métier.
Thierry Fournier demande, il existe ce Callisto?
Oui, il existe. Oui, je pense qu'il existe. Et pour l'instant, il est en cours de. Comment dire? Il y a une convention qui est passée. C'est assez lourd juridiquement. Hein, puisqu'il y a tout un tas de partenaires engagés. Et la convention autour de cette plateforme nationale est en cours de finalisation. Voilà ce que je peux vous dire. Mystère.
Il y a une question qui a été que j'ai oubliée. Alors c'était concernant est-ce qu'une inscription est obligatoire si l'on veut juste consulter sans participer aux activités?
Non, on peut consulter en mode public. Je le disais tout à l'heure. Ce qui est c'est pour faire les activités que l'on doit s'inscrire. Voilà. Mais donc, on pourra avoir accès aux modules de formation et aux ressources qui, elles, sont accessibles.
Mais par contre, on ne pourra pas faire les tests, etc.
Ah oui, non, là, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Oui, oui. Tout à fait.
Vers quelle date auront lieu les inscriptions pour la session de septembre?
Là, c'est d'accord. Alors, je vois que vous êtes très impatient.
Après la rentrée scolaire des enfants.
Je sens l'impatience.
Voilà. Ben, écoutez, on informera hein, via les canaux dédiés. Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré, d'autant que ça va être pris en charge par l'équipe rennaise, nos collègues de Rennes. L'URFIST de Rennes, donc on ne saurait parler à leur place, donc voilà, on ne peut pas vous répondre tout de suite sur la date, hein. Mais on communiquera voilà, en amont le plus possible.
Ouais. Les primaires, c'est le 2 septembre, ce sera après. Voilà. Alors, on va peut-être passer, parce qu'il est midi 17, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à la présentation du module 3. Donc, c'est Françoise qui va partager son écran tout à l'heure et qui veut d'abord lancer sur le chat un document parce que nous allons présenter le module 3 sur les critères Kero. Alors, ces critères Kero, donc je vais commencer par la présentation du module, Françoise. Le module en lui-même, il a été piloté par Françoise Gouzy, qui est à la direction en appui à la recherche de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, par Véronique Cohoner de la Maison de sciences de l'homme Ange Guépin à Nantes et par moi-même de la MSH Dijon. Et il a été également remarquablement accompagné par plusieurs membres que je vais citer, Annabelle Vasquez du Centre Alexandre Coiré, CNRS, par Florence Thiot et Marie-Laure Malingre, représentante de l'URFIS de Bretagne, Pays de la Loire, et par donc Véronique Cohoner également, de la MSH Ange Guépin. Et l'objectif principal du module, c'est de faire monter en qualité les revues. C'est l'objectif principal du module et des critères qui sont à la base de ce module. Faire monter en qualité les revues sur la base de critères transparents et vérifiables en ligne qui servent la qualité et le propos scientifique des publications. Et donc, ce sont des critères qui doivent favoriser la visibilité internationale de ces revues. L'objectif suivi à travers ce module et les critères Kero, c'est de sensibiliser aux enjeux de la science ouverte et donc de professionnaliser davantage les équipes éditoriales en s'appuyant sur la complémentarité des métiers de la doc et de l'édition, puisqu'il y a des choses qu'on a pu mettre en commun à travers ces critères pour faire des préconisations. Alors, les critères Kero, qu'est-ce que c'est? Ce sont des préconisations pour la qualité des revues scientifiques dans le contexte de la science ouverte. Et Françoise, donc, vient de déposer sur le chat la référence qui est déposée dans HAL en texte intégral depuis le mois de novembre-décembre 2020. Et donc, ce sont des critères que vous pouvez télécharger et réutiliser pour analyser vos revues. Alors, ces critères Kero, ils s'inspirent à la base d'un état de l'art qui nous a amené, nous, à la base, c'est Jean-Luc, Françoise et moi-même, à travailler sur ces critères en comparant différents systèmes d'information et les critères qu'ils préconisent pour intégrer des revues en leur sein. Donc, les systèmes d'information de base qui ont été étudiés, c'est Latindex et le DOAJ notamment. Mais nous sommes allés plus loin par la suite en continuant la comparaison sur différents critères avec les préconisations du plan S et les critères d'exemplarité du COSO relatifs aux contenus éditoriaux. Les préconisations qui sont faites au sein des critères Kero ne s'appliquent pas directement au contenu scientifique de la revue, mais ils s'appliquent à tous les aspects internes et externes à la revue qui permettent de l'évaluer de l'extérieur en fonction de ce qu'elle affiche sur son site Internet et en fonction des pratiques techniques qu'elle utilise. Alors, les critères Kero, ils sont regroupés actuellement sur le document que Françoise a partagé en ligne. Ils sont regroupés en 6 grandes rubriques qui vont de la présentation de la revue à son organisation et la transparence de ses procédures éditoriales, sa politique science ouverte qu'elle affiche, donc la revue, et le cadre légal qu'elle a mis en place autour des contrats et des licences. Donc, ce n'est pas tant la revue, mais l'équipe éditoriale, en fait, qui a mis en place tout ça. Et dans les autres, ces critères sont regroupés aussi dans une famille caractéristique sur les contenus qui sont diffusés et une famille diffusion et visibilité et pérennité et enfin une famille modèle économique. Et maintenant, Françoise va vous présenter concrètement comment ces critères Kero sont déclinés au sein d'un module sur les critères Kero et en relation avec une revue qui a été créée spécifiquement à cet effet. Je laisse la parole.
Merci Armelle pour ce rappel des critères Kero. Par curiosité, j'aimerais faire un petit sondage sur les participants à cette matinée. Combien d'entre vous connaissez les critères Kero? Est-ce que vous pouvez répondre sur le chat rapidement? Ça permet de vérifier un peu comment circule le document et si voilà. Donc en attendant, je continue d'avancer. Alors effectivement, ce module sur les critères internationaux de qualité éditoriale et sur les critères Kero voilà en particulier a été assez compliqué à mettre en œuvre et on était, autant vous dire, pas de trop d'être 5 hein, dans ce module parce que ça nous a demandé énormément de travail. Il a été compliqué parce que l'idée, c'était de pouvoir permettre à l'apprenant, aux apprenants, de naviguer à la fois entre cette grille de 50 critères et de pouvoir permettre aux apprenants d'appréhender ces concepts et en même temps de le faire naviguer dans cette revue test qui a été créée à cet effet. Donc, nous avons bénéficié de la collaboration étroite du soutien technique et humain de l'équipe d'Open Edition qui nous a créé une revue qui s'appelle Kero, une revue test Kero, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'entends les comptages. je voudrais pouvoir revenir là. Donc, je vais peut-être pouvoir y aller depuis ici. Hop, voilà. Donc, cette revue, on l'a appelée Kero, tout simplement. Un grand merci encore à Véronique Conner, Annabelle Vasquez. Annabelle Vasquez a fait un travail énorme de constitution des faux contenus, hein, parce qu'on a fait des faux articles. Enfin, voilà, évidemment, il n'était pas question de récupérer des choses existantes. Elle a été mise en place sur une instance de formation hein, de la plateforme Open Edition. Si je me trompe, Élodie, tu n'hésites pas à corriger hein, techniquement, mais sur la mise en place de la revue test. Et l'idée était de pouvoir se servir de notre propre expérience, de cas concrets auxquels on avait été confrontés en accompagnant des revues pour construire des contenus qui étaient entre guillemets fiables, en tout cas conformes aux critères de qualité, et d'autres contenus qui étaient un peu moins conformes, voilà, pour que l'activité puisse fonctionner. Donc, la prise en main par l'apprenant de cette grille de critères est compliquée parce qu'il faut qu'il prenne en main les intitulés des critères, hein, donc 50 critères, comme l'a dit Armel, des familles de critères, 6 familles de critères, et pour chaque critère, des préconisations. Donc, par conséquent, pour la revue, on a décidé de fonctionner… excusez-moi. Je suis obligée de faire ça parce que je me casse la tête. Voilà. On a décidé de fonctionner seulement sur une sélection de critères. Donc, on a travaillé sur 20 critères en tout, sur 50. Ça a été notre choix de faire un focus. C'était impossible sur une activité à peu près d'une heure de faire travailler les apprenants sur 50 critères. Donc, le module 3, il a pour objectif principal de permettre aux apprenants de connaître les éléments structurants d'une revue, hein, qui garantissent la qualité éditoriale en lien avec la science ouverte. Et on a construit le module à partir de 2 activités principales, hein, qui sont les objectifs de départ que nous avons considérés importants. Donc, d'abord, analyser et savoir appliquer les critères, 12 critères de la catégorie qui sont issus de différentes familles. Et à travers cette activité, l'apprenant va naviguer entre Moodle et la revue test pour aller chercher dans la revue test les éléments, les indices qui vont lui permettre de vérifier si le critère est conforme ou pas. Donc, on l'envoie par un lien extérieur, hein, comme je l'ai fait depuis ici, hein, en fait, quand il va démarrer son activité. Vous voyez, là, c'est l'intitulé de l'activité 1, découvrir en les appliquant les critères de qualité. Il va pouvoir naviguer dans les différentes familles, donc il y a 5 familles qui ont été choisies, et il y a 8 critères en tout qu'il va aller devoir vérifier en allant directement sur la revue test. La deuxième activité qui a été prise en charge entièrement par Marie-Laure Malingre et Florence Thiot avait pour but de faire un focus particulier sur 8 critères issus de la famille présentation de la revue, qui sont des critères assez simples, hein, assez basiques, mais qui sont primordiaux pour pouvoir intégrer les systèmes d'information, et certains critères liés à la politique science ouverte, aux droits d'auteur et aux licences. Donc, du coup, pour valider, en tout cas, les compétences visées dans ce module, c'est la capacité à savoir appliquer sur votre revue les principaux critères de qualité éditoriale pour être conforme à ces normes internationales et prétendre à intégrer les systèmes d'information ouverts ou moins ouverts. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est les systèmes d'information ou les instances qu'a évoqué Armel tout à l'heure, DOAJ, Latindex, mais Latindex qui est très particulier à un territoire géographique, et les critères d'exemplarité du COSO et le plan S, bien entendu. Donc, il y a un test final qui se présente comme un texte à trous, comme a montré Jean-Luc. Oups, pardon, j'ai été déconnectée parce que ça fait un petit moment que j'étais en dehors. Voilà, donc on a un texte à trous, voilà, qui permet de récapituler l'ensemble des concepts vus au cours de ce module et qui validera ce module. Donc l'idée, c'est de savoir à quoi correspondent des critères de qualité à l'intérieur d'une revue, de savoir les identifier et les retrouver. Donc dans ce module, comme l'a dit, et tous les modules sont construits de la même manière, hein, il y a une vidéo introductive d'experts. Et donc là, en l'occurrence, ben, c'est Jean-Luc et moi qui faisons une petite présentation des critères Kéro pour introduire ce module et mettre un peu les apprenants dans le bain. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce module-là. Bon, c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche hein, qui a été la nôtre sur ce module. Un module assez compliqué qui, puisque ça nous a demandé de construire voilà, une instance de revue à côté de Moodle et de s'assurer que les deux allaient pouvoir dialoguer correctement. Donc, ça envoie l'apprenant quand même, vous voyez, à l'extérieur du Moodle. Voilà, donc c'est le choix que l'on a fait. On a vérifié avec notre ingénieur pédagogique que c'était possible. On a pensé que c'était à partir d'activités manipulatoires, pratiques, que l'apprenant pourrait correctement prendre en main ces questions-là. Voilà, donc on peut prendre vos questions tous les trois, sans problème, puisque... On a vraiment travaillé sur ces critères pendant, pareil, de 2 années, bien comme il faut, on peut le dire. Non, je ne vois pas de questions.
Non, mais pour répondre à ta question précédente, alors je n'ai pas recompté depuis, mais il y avait 17 ou 18 oui qui connaissaient les critères.
D'accord.
Pour, moi, j'étais restée à 11 personnes qui n'avaient pas l'air de les connaître. Donc, il y avait D'accord. déjà une...
Oui.
Et quelqu'un qui disait je connais les critères Latindex, mais effectivement, on est allé plus loin avec ces critères Kéro. Et les critères Latindex sont compris dedans. Mmh. Oui, alors, Jean-Luc, tu voulais dire?
Il y a une question.
De Mathilde Lefebvre, ouais.
Oui, bonjour. Je veux savoir si j'ai bien compris, en fait, le batch par module n'est prévu que pour plus tard. C'est ça?
Non, c'est pas prévu.
C'est pas
pour l'instant, non. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de badge intermédiaire. C'est ce qu'on a décidé.
Donc, c'est
un badge global.
Un badge global.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut envisager que, évidemment, les manques en compétences puissent être diverses et pas forcément globales? Et est-ce que...
Alors, une question, de toute façon, c'est modulable, hein, ces choses-là. Là, c'est le choix que l'on a fait. Je pense quand on aura fait jouer la première fois le SPOC et qu'on aura un peu une idée du profil des apprenants, des compétences, des lacunes, etc., on sera en mesure, et comme il est possible aussi d'utiliser des briques en fait, du SPOC, on peut très bien envisager d'attribuer, pourquoi pas, des badges par module aussi. Mais pour l'instant, on a décidé... Cette démarche, mais c'est pas figé dans le marbre.
D'accord, voilà. Donc si on s'inscrit, on s'inscrit à tout.
Oui, voilà, si on s'inscrit, on s'inscrit à tout. Oui.
Ok, merci.
Une autre question de Laurent.
Oui, encore moi. j'ai une question parce que tout à l'heure vous disiez justement que vous alliez utiliser ou tester une partie du SPOC, c'est-à-dire 3 modules, il me semble. Si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment, quand vous avez réfléchi vraiment à la conception pédagogique de ce SPOC, vous vous êtes dit, on va séparer les modules les uns des autres pour bien pouvoir en sortir ou en extraire 1, 2, 3, 4, si l'on veut, de l'ensemble du SPOC pour des usages plus particuliers. C'est un petit peu dans cet esprit-là que ça a été aussi réfléchi.
Là, vous parlez de la façon dont on a conçu l'ensemble
Oui, ben, l'idée de modulariser, c'est-à-dire de séparer les contenus et les thèmes les uns des autres, rend, j'imagine, possible le fait, pour des besoins très particuliers, de n'utiliser qu'une partie des modules. Est-ce que c'est ce que vous avez déjà envisagé?
Alors, n'hésitez pas, Armel et Jean-Luc, à compléter, hein, mais c'est évident qu'on pensait que ça serait plus digeste de le saucissonner, enfin, déjà de découper par grandes thématiques, et effectivement, avec la possibilité, les cours dans Moodle, voilà, d'avoir des cours indépendants et de pouvoir effectivement les couper, les, peut-être les associer, les regrouper. Et comme disait Mathilde, à un moment peut-être de rendre des badges par module. Oui, c'est l'idée d'avoir des briques dont on pourra peut-être changer l'ordre, rajouter des briques, enlever des briques. Vous voyez, ça, tout ça, c'est pour ça qu'on dit évolution. Enfin, qu'il y aura une évolution nécessaire, hein, ça bougera tout le temps, hein, cette formation, nécessairement. Mais oui, il me semble qu'en travaillant sur le principe de briques, ça a été notre choix aussi pour des facilités de gestion de projet et de travail, puisqu'on a créé des équipes par module qui sont quand même assez indépendantes et qui ont fonctionné pendant un an et demi avec beaucoup de ténacité et de courage. J'en profite pour remercier tout le monde, même si tout le monde n'est pas connecté, parce qu'on a travaillé tous à distance et chaque module faisant travailler son équipe voilà, indépendamment les modules des uns des autres, avec des originalités et des sortes de, comment dire, de marques, quoi, enfin pas de marques, mais de touches un peu personnel. Donc ça, on a trouvé aussi que c'était intéressant. Même, il y a une homogénéité qui sera une homogénéité visuelle, hein, bien sûr, une identité. On a notre logo, on a un graphisme dont Jean-Luc disait qu'il n'était pas tout à fait terminé encore. Mais après, les contenus sont vraiment propres à chacun, à chaque équipe. Et oui, je pense que l'idée, c'est de pouvoir effectivement peut-être sortir des briques, pouvoir les jouer en distanciel, en présent. Voilà, c'est ça l'idée.
Il y a une question dans le chat de Fabienne Eulan qui dit « Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on s'inscrit, on a un mois pour faire les 7 modules ?»
Oui, a priori, c'est ça l'idée. Alors,
et l'idée, pourquoi? Parce qu'on s'était dit que c'était peu, mais en même temps, on s'était dit que si on voulait garder les gens mobilisés, il fallait quand même circonscrire dans la durée le parce que des fois on s'inscrit et c'est vrai que sur un il y a 7 modules, on évalue à 10 heures de travail et enfin pour pouvoir le réaliser, et peut-être qu'un mois c'est un peu court, mais en fait il faut pas non plus aller trop au-delà, sinon on perd les apprenants qui s'inscrivent et qui ne vont pas jusqu'au bout. Voilà.
On va ouvrir le SPOC, hein. c'est même pas on s'inscrit, c'est on ouvre le SPOC pour un mois. Il y a aussi une dimension particulière, c'est qu'on va accompagner les apprenants. Ça veut dire aussi une mobilisation des équipes, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer de se mobiliser sur 3 mois, un truc qui peut effectivement, comme le dit Armel, s'effilocher, et qui peut aussi s'effilocher du côté des accompagnateurs, parce qu'on est quand même
On a des missions par ailleurs.
Beaucoup d'autres missions par ailleurs. Donc là, ça nous permet de nous mobiliser sur un mois, d'être beaucoup plus concentrés sur la question et de ne pas, voilà, de pas être mobilisés sur une période trop longue. Donc, mais effectivement, comme on le disait, on a quand même beaucoup, beaucoup de nous-mêmes, hein, d'interrogations, de questions. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et ça sera justement ces premiers tests. Avec les premiers apprenants et les premières apprenantes qui vont nous permettre justement de voir que telle chose ne fonctionne pas. Et il est clair que ce SPOC, il est destiné à évoluer et peut-être à évoluer profondément à l'avenir. Hein. Donc, comme le disait Françoise, on a donc au sein de Repair, donc on avait fait un appel à projet FEDESO, donc on a recruté un ingénieur d'études en édition qui est Basile Bayou, qui était antérieurement aux presses universitaires de Lyon, et qui va consacrer...
Non, pardon, non, de Lyon.
De Lyon, oui. Okay. Et qui va consacrer 50% de son activité à Repair, hein, donc pas seulement au SPOC, mais en tout cas, une de ses missions au sein de Repair, hein, donc de l'animation de Repair, ça va être justement de pouvoir prendre le relais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Françoise a consacré quand même un temps fou à animer toute l'équipe. Hein, voilà, je pense que là, c'était un vrai sacerdoce pendant un an et demi, et qu'il faut que Françoise elle puisse passer le relais. Basile aura en pour tâche aussi de petit à petit, hein, de prendre. Hein, pas, ça ne veut pas dire qu'on va lâcher les choses et que Françoise va se désinvestir et nous aussi, mais que on va pouvoir confier une partie de cette tâche à Basile qui va consacrer. Donc voilà, c'est quelque chose qui va évoluer quand même certainement ensuite petit à petit, mais dans certains cas, peut-être sur certains modules ou sur certaines activités assez profondément. Ouais. En fonction de vos retours. Donc, vos retours vont être vachement importants pour nous. Hein.
Bah justement, il y en a un sur le chat qui est important, c'est de Anne Bertrand, alors je me permets de le citer. Elle revient sur la durée totale et sur l'imbrication des modules, etc. Et elle dit que pour un total de 10 heures avec un choix de labellisation globale qui a été très bien exposé, il lui semble que si l'on se sent déjà à l'aise sur une thématique, donc sur un des modules, on aura vite fait de compléter le module correspondant pour consacrer plus de temps aux thèmes moins bien connus. Bref, elle juge que pour une formation assez brève, c'est tout à fait justifié l'impossibilité de s'inscrire pour certains modules seulement. Merci Anne, c'est bien comme retour personnel.
Alors, pour compléter ce que disait Jean-Luc sur le suivi et puis l'accompagnement du SPOC par Basile, que j'attends avec impatience. non, juste aussi pour faire un lien avec le réseau Repair, hein, puisqu'on vous a dit au départ que ce module de formation était le premier livrable du réseau Repair. Et on l'a fait connaître déjà à certaines occasions, notamment aux journées Repair en février. Il va pouvoir aussi, on va bénéficier on attend les retours des apprenants et puis vos témoignages, mais on va pouvoir faire vivre aussi cette évolution et les premières expériences à travers un des groupes de travail du réseau Repair qui est le groupe formation et documentation, puisqu'il y a 4 groupes de travail qui ont été mis en place dans le cadre du réseau. Et dans ce groupe de travail formation et documentation, un des gros sujets, ça sera le SPOC Kero. Et donc, ce groupe de travail permettra aussi, il y a un certain nombre de collègues inscrits déjà, 6 ou 7 6 personnes, je crois, à peu près. Ça permettra aussi d'être un espace, un lieu de travail et d'échange autour de l'évolution et de l'amélioration de ce dispositif de formation. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention, votre réactivité, votre participation, parce que c'était pas facile à construire ce petit webinaire pour montrer quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, mais pour vous en donner un petit peu le goût quand même. Donc, on espère que vous aurez pu en profiter et avoir envie d'aller plus loin.
Merci à vous trois pour cette présentation très, très intéressante, complète, interactive. On a vu que beaucoup d'entre nous sont maintenant impatients de l'ouverture de SPOC. On se tient prêt à s'inscrire. Merci également à tous les participants pour vos retours sur cette présentation. Alors, on a mis sur le chat un questionnaire d'évaluation. Le lien pour le questionnaire d'évaluation, je vais peut-être le remettre. Je vous invite à y répondre. Je vous en remercie. Voilà, je l'ai remis. Et enfin, j'en profite pour vous annoncer que le prochain webinaire « Enjeux et pistes pour l'accès ouvert des publications africanistes » se déroulera le 16 juin de 11h à 12h30. En tout cas, un grand, grand merci à vous trois.
Avec plaisir.
Merci à Alicia de nous avoir permis de présenter le SPOC.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe Médici. Merci aux participants. Merci à tout le monde.
Au revoir à toutes et à tous.
Et bon appétit.
Bon appétit. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.